Cet enfant sera posé dans le monde comme un signe de contradiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà la suite de la prophétie du vieillard Siméon que nous venons d'entendre dans l'Évangile du Saint-Luc, racontant la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. Signe de contradiction. Voyons donc, dans une première partie, si cette prophétie, peinte sous des couleurs noires, s'est bien accomplie en notre Seigneur, et si oui, pour qui le Sauveur deviendra-t-il un signe de contradiction, et pourquoi, quelle sera l'utilité de cette contradiction que Jésus-Christ aura suscité. Enfin, dans une seconde partie, nous allons examiner si notre Seigneur n'est pas pour nous-mêmes un tel signe, 2000 ans après sa mort. Pour vouloir dire que Jésus-Christ n'a jamais été dans sa vie contredit, il faudrait pour cela ne jamais lire une page de l'Évangile. Quel genre de contradiction n'a-t-il pas éprouvé? De qui n'en a-t-il pas reçu? Contradiction envers sa personne qui n'a pas où reposer sa tête. Contradiction envers ses actions que l'on attribue au désir de la bonne chair. Contradiction envers ses miracles, on lui dit que ce sont les œuvres de Belzébub, du diable. Contradiction envers ses paroles, que l'on épie avec un soin perfide pour y trouver un prétexte de blâme. Contradiction par les pharisiens qui le critiquent. Contradiction par les docteurs de la loi qui le calomnient. Contradiction par les prêtres qui le persécutent. Contradiction par le peuple qui un jour veut le faire roi et lendemain veut le lapider. Contradiction par ses propres apôtres dont il est obligé de supporter l'ignorance, la grossièreté jusqu'à la trahison de l'un et le reniement de l'autre. Enfin, les pharisiens, docteurs de la loi, prêtres, eux tous, s'emparent de notre Seigneur quand vient son heure de sa passion. Ils l'accusent, font venir contre lui des faux témoins. Ils le semblent déclarer s'il est le Fils de Dieu. Et il lui faudra mourir pour avoir répondu avec netteté à leur interrogation. Et quand notre Seigneur sera sur la croix, ils viendront encore railler ses paroles et ses prophéties. Peut-on donc trouver un homme qui serait contredit, on ne dit pas plus, mais comme Jésus-Christ pendant toute sa vie? Même après, on ne le laissera pas en paix. Ces contradictions continueront après son retour au ciel, dans ses disciples, qu'on fera mourir à cause de lui, comme d'ailleurs il leur a annoncé. Puis il sera contredit dans son Église, dans son corps mystique, par les incrédules, les infidèles, par l'hérésie qui le défigure, par le schisme qui le divise, enfin par la multitude de mauvais chrétiens qui ne cessent pas de l'offenser. Que dire, chers fidèles, par exemple, au sujet des papes post-conciliaires? Si l'on veut juger leurs actes par les effets, on est contraint de dire qu'il tente à démolir l'Église du Christ et la papauté romaine, tel le pape François qui profane l'autel papal de la basilique vaticane par l'offrande présentée à l'idole de la Pachamama, le Saint-Père qui abandonne le titre de vicaire du Christ. Mais dans ce cas-là, de qui il veut être vicaire? De la Mère Terre? Passons. La contradiction envers notre Seigneur est complète, surabondante, continuelle. Mais enfin, pourquoi Jésus-Christ voulut être ce signe de contradiction? La contradiction à laquelle il était en but devait manifester les pensées de cœur, une sorte de test. Ce sont justement les contradictions qui ont découvert les secrètes dispositions des Israélites du temps de notre Seigneur, qui ont discerné le vrai peuple de Dieu de celui qui en usurpait le titre. Imaginons que la religion chrétienne ne soit jamais contredite. On ne pourrait alors jamais distinguer ceux qui lui sont sincèrement et solidement attachés de ceux qui ont pour elle un attachement simulé ou languissant. Ce sont les persécutions qui font distinguer les martyrs des apostats. Ce sont les séductions du démon et les illusions du monde qui poussent tant de chrétiens, chrétiens mondains, dans le péché et finalement dans la perte éternelle, mais aussi par réaction tant de vrais fils de l'Église au combat spirituel qui les fortifie. Bref, notre Seigneur consent à être un objet de contradiction pour éprouver ceux qui le servent, pour faire connaître leurs vrais sentiments, pour séparer les vrais justes de ceux qui n'en ont que l'apparence. Et justement, pourquoi ne pas nous examiner si, du moins parfois, notre Sauveur n'est pas pour nous un signe de contradiction? Ne protestons pas trop vite en disant « Quand même, je crois en Jésus-Christ. À tous les articles de mon credo, je ne suis ni hérétique ni schismatique. Comment mon doux Sauveur pourrait être pour moi un signe de contradiction? » On dit bien, chers fidèles, un signe de contradiction. Et ce signe, n'est-ce pas, la croix? Relativement à celle-ci, les chrétiens se partagent en deux camps. Le premier, camp des gardiens de l'instinct naturel en face de la croix. Le deuxième camp, camp des gardiens de l'esprit surnaturel, esprit chrétien vis-à-vis de la souffrance. La crainte de souffrir pousse les premiers à dire « la croix est un mal ». La joie, joie surnaturelle de souffrir, porte les seconds à parler ainsi « la croix est un bien ». À nous, chers fidèles, de décider dans quel camp voulons-nous vivre et finir nos jours ici-bas. À nous de rendre la croix adorable pour notre salut ou abominable pour notre perte éternelle. Si nous sommes décidés coûte que coûte à devenir partisans plus amis de la croix, sachant que cela s'obtient de deux manières. La première, ce sera quelque chose de passif, consiste à accepter la croix, l'accepter volontiers quand elle est imposée. Par exemple, ce qui nous demande notre devoir d'État. Pour un religieux, de bien suivre sa règle, sa constitution. Pour les parents, de veiller à l'éducation chrétienne de leurs enfants, etc. Ce qui demande souvent beaucoup de résignation. Puis, la deuxième manière de devenir partisan, ami de la croix, cette fois-ci quelque chose d'actif, consiste à embrasser généreusement une mortification, une humiliation, quand il s'agit de se vaincre. Quelqu'un, par exemple, a un grand talent pour m'énerver, et en toute chose. Au lieu de lui rendre la pareille, on prie pour lui, on lui rend de petits services, on cherche même à devenir son meilleur ami. Sous ce double aspect, résignation, esprit de mortification, voici les deux mots qui résument les bonnes dispositions d'une âme pour laquelle la croix de notre Seigneur n'est pas un signe de contradiction. Si la Providence me fait souffrir, tant mieux. Si j'ai à me vaincre, deux fois tant mieux. Voilà, chers fidèles, comment nous prédisposer à recevoir un jour, quand nous-mêmes deviendrons comme notre Seigneur, un signe de contradiction par les persécutions. Comment recevoir un jour le soutien, la force de lui rester fidèle jusqu'au bout. Que le cœur immaculé et douloureux de Notre-Dame, ce cœur que Siméon a prédit d'être transpercé, qu'il nous obtienne cette grâce de fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.